Bonjour et bienvenue sur le podcast En Famille, le podcast de toutes les familles.
Je suis Béatrice Copper-Royer, psychologue clinicienne. Je reçois dans mon cabinet des enfants, des adolescents et leurs familles. Je suis aussi cofondatrice et présidente de l'association e-enfance qui informe et protège les mineurs des dangers potentiels d'Internet. J'ai écrit une dizaine d'essais sur les liens familiaux.
Je suis Marie Guyot, je suis journaliste spécialisée en santé et en psychologie. Dans le cadre de mon métier, j'ai réalisé de nombreux reportages sur les problématiques familiales. C'est d'ailleurs ce qui m'a permis de rencontrer Béatrice. De cette rencontre est née une amitié et l'envie de travailler ensemble, puisque nous avons coécrit 3 livres autour de cette thématique de la famille.
Aujourd'hui, la famille a changé. Elle se sépare, elle se réinvente, elle peut être nucléaire, recomposée, monoparentale, homoparentale. Et de nouvelles questions viennent à se poser.
Dans ce podcast, on se propose d'aborder avec vous les petits soucis et les grands tracas que l'on rencontre dans le cadre de nos relations familiales pour mieux les comprendre et les surmonter.
Ce podcast est rendu possible grâce au soutien de Card, l'application d'argent de poche préférée des familles.
Épisode numéro 13, le harcèlement scolaire, un fléau des temps modernes. Alors Béatrice, dans l'actualité, on entend beaucoup parler du harcèlement scolaire. Peux-tu nous expliquer ce qu'on appelle le harcèlement scolaire et en quoi est-ce que c'est différent des disputes de cours de récréation ?
Il y a 3 choses qui caractérisent le harcèlement scolaire. C'est un rapport de force et de domination, la violence et la répétition. Mmh. Donc le harcèlement, c'est vraiment une série d'agressions qui se répètent régulièrement sur une longue période et qui isole la victime. Mmh. Donc, c'est effectivement pas une petite dispute de cours de récréation. C'est quelque chose qui se répète, qui est violent, qui isole la victime. Et celle-ci, en fait, elle se retrouve dans l'incapacité de se défendre. Mmh. Et donc, il y a une espèce de système extrêmement pernicieux qui se met en place. Moins elle peut se défendre, plus l'autre agresse. Et donc, on tombe dans une répétition sans fin et extrêmement douloureuse pour la victime.
Alors, quand on entend parler du harcèlement scolaire, c'est plutôt chez les collégiens. Mais est-ce que toutes les classes d'âge peuvent être concernées ?
Je pense que dans le primaire, alors, les petits de la maternelle se disputent et peuvent être assez méchants entre eux. Mais je ne pense pas que ça soit vraiment en lien avec la volonté de vraiment accabler un enfant. C'est souvent, on en reparlera, mais la personnalité du harceleur et la personnalité du harcelé s'inscrivent toujours quand même dans une dynamique familiale. Et il faut aussi essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe dans ces dynamiques familiales-là pour qu'il y en ait un qui soit aussi violent et l'autre qui subisse autant de violence. Bon. Chez les petits, donc oui, il y a des disputes et il y a des enfants qui peuvent être assez agressifs avec les autres. Mais moi, je pense surtout que ces enfants en maternelle qui sont dans un système défensif parce qu'ils se sentent très souvent agressés. Et donc, il faut plutôt interroger effectivement leur milieu familial. Qu'est-ce qu'ils vivent, eux, comme agression pour avoir le sentiment d'être agressé par les autres enfants. Parfois, c'est des enfants aussi qui ont été un peu couvés par les parents, par une nounou, et qui n'ont pas tellement l'habitude, ou qui n'ont pas de grands frères et sœurs, et qui n'ont pas l'habitude de l'adversité. Or, des enfants de 3 ans, 4 ans, 5 ans, c'est quand même beaucoup plus compliqué. Je veux dire, il y a une agressivité latente et il faut s'en dépatouiller de tout ça. Et il y a des enfants qui sont moins armés. Donc, à ce moment-là, ils agressent pour se protéger. Ensuite, dans le primaire, moi, je trouve qu'on voit beaucoup, notamment chez les filles, parce que je trouve que ça s'exprime différemment chez les filles et chez les garçons. Mmh. Les garçons peuvent être assez méchants et violents, c'est-à-dire qu'ils peuvent se battre et s'il y en a un qui est moins fort, qui joue moins bien au foot, dans la cour de récré, qui court moins vite, ils peuvent être vraiment mis à l'écart et parfois même agressé physiquement parce que on n'en veut pas dans l'équipe, donc il y a un sentiment de rejet qui est lié à ces entre guillemets contre-performances ou le fait qu'on le trouve un peu trop fille, un peu trop doux, etc.
Un peu trop petit,
voilà, ou un peu trop gros aussi.
Oui.
Chez les garçons, ça va être très très vite de l'agression physique et du rejet dans les jeux. Chez les filles, c'est autre chose que les filles parlent beaucoup plus que les garçons et sont dans des espèces de cercles intimes comme ça, où il y a un peu la reine de la ruche qui va décider de qui est dans le groupe. Il y a des rejets, des commentaires, t'es ma copine, t'es plus ma copine, etc. Alors ça paraît assez banal parce que c'est vrai que ça a toujours existé ça, mais parfois quand même ça prend des tonalités extrêmement fortes et il ne faut pas non plus passer à côté de ces rejets comme ça systématiques et de ces méchancetés verbales, ces moqueries, justement la moquerie sur l'apparence et ces espèces de rumeurs qui sont très pernicieuses et qui peuvent faire très très mal. Donc malheureusement, le harcèlement scolaire existe aussi à l'école. Et c'est pour ça que je dis toujours, quand j'interviens auprès d'établissements scolaires, dans des réunions de parents notamment, aux directeurs d'établissements, de faire attention à ce que les cours de récréation soient mieux surveillés. Parce que parfois, ils passent complètement à côté de comportements qui sont absolument inadmissibles.
Alors, est-ce que le harcèlement scolaire, ça peut toucher n'importe quel enfant ?
Alors, peut-être qu'on peut parler déjà ensuite du harcèlement au collège. C'est pas n'importe quel enfant qui va être effectivement touché par le harcèlement scolaire, mais le harcèlement scolaire au collège va prendre une proportion encore plus importante dans la mesure où la nécessité d'appartenir à un groupe devient tout à fait impérieuse. Et pour appartenir à un groupe, il faut avoir les codes. Et si on n'a pas les codes, on ne peut pas faire partie du groupe. Et à ce moment-là, les rejets qui concernent beaucoup, beaucoup, beaucoup les apparences, tu le disais, trop petit, trop gros, un peu efféminé, un peu masculine, au lieu d'avoir les codes de toutes les filles, tout ça peut justifier des attitudes de rejet qui peuvent être très fortes et isolées, donc, puisque c'est l'isolement qui va caractériser aussi le harcèlement, et isoler tout d'un coup un élève qui va devenir totalement exclu et qui va se sentir bafoué, moqué, dénigré, ce qui évidemment lui fait perdre confiance en lui et va avoir des conséquences psychologiques. Ce que tu me demandais, c'est est-ce que n'importe quel enfant peut être harcelé ? Et d'ailleurs, n'importe quel enfant peut-il être harceleur aussi ? Et je crois que non. Je crois qu'effectivement, c'est là où il faut toujours interroger la dynamique familiale, parce que si on en reste uniquement à c'est la faute de l'école, c'est la faute des directeurs, etc., on va pas beaucoup avancer. Je crois qu'il faut essayer de comprendre pourquoi cet enfant-là n'arrive pas à se défendre, qu'est-ce qui le met dans cette attitude un peu de minorité et de faiblesse, et de l'autre côté, pourquoi est-ce que ce garçon et cette fille a besoin comme ça de rabaisser, qu'est-ce qui dans son environnement l'agresse ou le rabaisse pour qu'il ait besoin de se venger de tout ça.
Aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, il y a aussi du cyberharcèlement. À l'association e-enfance, vous luttez contre ce fléau. Est-ce que tu peux nous dire en quoi ça amplifie encore le problème ?
Alors, effectivement, c'est une caisse de résonance absolument énorme, hein, parce que le cyberharcèlement, c'est du harcèlement, mais qui se déroule en ligne. Donc, ça sort de la cour du collège et l'élève harcelé, il rentre chez lui dans l'intimité de sa chambre et sur son portable, il va trouver des injures, des moqueries, des méchancetés, en fait. Et donc, il n'y a pas de répit. On l'a vu, il y a eu des drames. Je pense que les pouvoirs publics, l'éducation nationale et les parents aussi ont tout à fait conscience que ce n'est pas du tout un épiphénomène. Il y a 800 000 à 1 million d'élèves qui seraient soumis à du harcèlement, ce qui fait en fait entre 6 et 10%. Donc c'est quand même absolument énorme. Heureusement, il y a une prise de conscience donc, des pouvoirs publics, de l'éducation nationale et le harcèlement en mars 2022 a été reconnu comme un délit qui peut être puni de 10 ans de prison en cas de suicide ou de tentative de suicide. Donc voilà quelque chose qui marque quand même les enfants et les adolescents, à qui il faut le rappeler, les parents aussi. Et puis, il y a un décret du 17 août dernier qui renforce aussi la protection des enfants en durcissant les sanctions. C'est-à-dire que maintenant, le harceleur pourra être exclu définitivement, voire radié, si la direction le juge utile. Donc oui, il y a une prise de conscience que le harcèlement et le cyberharcèlement font vraiment des victimes chaque année. Les parents, parfois, ne prennent pas la mesure parce que le problème, c'est que les enfants n'en parlent pas toujours. Les plus petits, en primaire, et d'ailleurs en primaire, c'est plus du harcèlement scolaire que du cyberharcèlement, ils en parlent davantage. Mais au collège, comme ils sont dans cette dynamique justement de ne pas être des bébés, de ne pas se réfugier chez papa et maman au moindre souci. Ils ont honte un peu de ce qui leur arrive et donc ils vont parfois le taire très 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 longtemps.
Alors justement, est-ce que parmi les enfants que tu vois, ou les enfants ou les adolescents que tu vois en consultation, tu peux nous expliquer quelles sont les conséquences psychologiques du harcèlement scolaire sur l'enfant ou l'adolescent ?
Il y a évidemment une perte de confiance en soi, un sentiment de honte, le sentiment et puis un sentiment d'incompréhension. Mmh. Moi, je pense que c'est peut-être d'abord le sentiment d'incompréhension. Pourquoi moi, au fond, qu'est-ce que j'ai ? Ouais. Qu'est-ce que j'ai pas, surtout, pour en arriver là, pour subir autant d'agressions et de moqueries ? Donc, un sentiment de perte de confiance, un sentiment de solitude absolument énorme et qui, à l'adolescence, évidemment, est fracassant parce que l'adolescent a besoin des autres. L'adolescent, il a vraiment besoin de la reconnaissance des autres, de, pas forcément d'être le plus populaire, mais au moins d'avoir un petit groupe qui l'accueille et avec qui il se sent bien. Donc le sentiment de solitude éprouvé par ces garçons et ces filles est extrêmement douloureux. Parfois, on l'a vu, conduit à des drames épouvantables.
Oui, parce que là, c'est le sentiment de solitude et même le sentiment du rejet social.
Oui, mais il y a une désespérance, quoi, finalement. Hein. Qu'est-ce que je fais là ? Puisque de toutes les façons, on me dit que je suis rien du tout, que je mériterais de ne pas exister. Hein, parce que parfois, les messages sont aussi explicites. Hein. Tu ne mérites pas de vivre, par exemple. Là, c'est des messages qu'on entend. Alors, effectivement, tu parlais du 3018, qui est donc le numéro d'appel pour le cyberharcèlement. Et c'est très important que les adolescents et les parents l'aient en tête et l'application sur leur smartphone, parce que les écoutants du 3018 peuvent signaler de façon prioritaire les cas de harcèlement, de cyberharcèlement. Mmh. Pour le harcèlement scolaire, c'est le 3020. Et donc là, c'est pareil, il y a des écoutants qui aideront les parents à réagir, à faire des démarches éventuellement, etc. Et pour le cyberharcèlement, le 3018 va écouter bien sûr longuement, donner éventuellement la marche à suivre et aussi être signaleur de confiance auprès des plateformes.
Tu disais tout à l'heure que les enfants avaient honte, on les comprend, les enfants harcelés. Du coup, souvent, ils se renferment sur eux-mêmes et ils n'en parlent pas. Quels sont les signes, en fonction des âges, qui peuvent alerter les parents et leur faire penser que peut-être leur enfant est victime de harcèlement ?
Déjà, il y a la difficulté d'aller à l'école. Hein. Mmh. Et donc, l'enfant ou l'adolescent va dire qu'il a mal au ventre, qu'il est mal à la tête, donc des plaintes somatiques pour éviter éventuellement de se rendre à l'école ou au collège. Donc, c'est vraiment quand ça devient trop systématique, ou l'enfant, le collégien ou la collégienne qui va passer son temps à l'infirmerie parce qu'il ne se sent pas bien. Quand ça dure, il faut se poser la question effectivement de savoir qu'est-ce qui se passe. Pas forcément du harcèlement, ça peut être autre chose, ça peut être un stress scolaire, mais voilà, ça fait partie des hypothèses. Le repli sur soi, l'enfant qui était joyeux, parlait volontiers et qui finalement va se replier, va être plus sombre, être plus dans sa chambre, etc. Donc là, c'est au fond une rupture dans le comportement, toutes les ruptures en fait. Hein. Il était comme ça, il devient comme ça. Il était heureux d'aller à l'école, il est absolument désolé d'aller au collège et ça va plus du tout. Il a mal au ventre et mal à la tête tout le temps. Il s'enferme dans sa chambre. Il n'a pas tellement de copains qui l'appellent. Il ne va pas tellement chez les uns et les autres. Donc, tout ça, et parfois, ça peut aller jusqu'au refus scolaire. C'est-à-dire, je ne peux plus me lever le matin pour aller au collège.
Oui, ou la chute des résultats scolaires également.
Oui, la chute des résultats scolaires, les troubles du sommeil aussi. En fait, c'est une accumulation comme ça de signes qui doivent alerter. Alors, il ne faut pas bondir parce que, alors, c'est toujours la même chose. Quand on parle beaucoup d'une situation, il y a des parents qui pensent que leur enfant est harcelé, alors que c'est pas vraiment du harcèlement. Donc, il faut aussi savoir de quoi on parle. Et donc, il n'y a pas heureusement que des drames. Hein. Des disputes d'enfance, ça a toujours existé. Et donc, le harcèlement, c'est vraiment ce qu'on a dit au départ, c'est-à-dire des agressions répétées, violentes et qui isolent. Mmh. Et le cyberharcèlement, c'est la même chose, mais en ligne, avec des injures, des captures d'écran qui pour se moquer, qui circulent, bref.
Ou même sur les groupes WhatsApp des classes. Hein,
absolument, des commentaires extrêmement désagréables sur les groupes WhatsApp. Donc ça va être toutes ces moqueries et cette agressivité pour montrer à l'autre que franchement il n'est rien du tout, qui va se faire en ligne.
Alors quelle attitude peuvent avoir les parents quand ils s'aperçoivent de ça ?
Je pense que la première réaction, c'est déjà d'en parler, de faire à leur enfant l'hypothèse qu'il doit y avoir un souci au niveau de ses relations amicales, sociales, dans le cadre de l'établissement scolaire.
Comment on peut lui dire ça ? Quelles questions on peut lui poser.
Bah, il faut faire des hypothèses. Il faut faire des hypothèses. Il faut lui dire, écoute, là, moi, nous, on ne te trouve pas bien du tout. J'ai l'impression que tu n'es pas du tout heureux, pas du tout heureuse, que tu es triste. Tu as déjà entendu, il y a beaucoup d'enfants qui se font harceler, qui se font vraiment embêter en classe. Peut-être que ça peut être toi. Tu sais très bien que ce n'est pas les enfants harcelés qui ont tort, ce sont les harceleurs. Donc, est-ce que ça pourrait être ça? Faire des hypothèses, le mettre un peu sur la piste en le rassurant et en lui montrant que ça, malheureusement, ça arrive à d'autres. Donc déjà, en parler avec l'enfant et l'adolescent. Et ensuite, évidemment, prendre contact avec les établissements scolaires, avec la direction, avec les professeurs, le professeur principal quand c'est au collège, l'institut quand c'est à l'école, pour qu'il y ait vigilance et puis un dialogue autour de ce qui se passe. Je pense que ce n'est pas une très bonne idée de décrocher son téléphone et de parler directement aux parents. De celui qui est supposé harceler, parce que ça aboutit rarement à une médiation intéressante. Je pense qu'il vaut mieux que ça s'inscrive dans le cadre de l'école qui, pour le coup, doit aussi prendre ses responsabilités.
Puis Enfance, le numéro d'Enfance peut aider également dans ces cas-là.
Bien sûr, alors le 3018 est fait pour écouter et donner des conseils et réagir. Alors effectivement, c'est un excellent réflexe. Et il faut également, quand les parents s'aperçoivent qu'il y a une situation de harcèlement, soit cyberharcèlement, soit harcèlement, être dans un dialogue vraiment très très soutenu avec les établissements scolaires, la direction, pour que des mesures soient prises, pour que ça s'arrête, parce qu'il faut absolument que ça s'arrête.
Alors tu disais tout à l'heure qu'il y avait des traits de personnalité, des événements familiaux, des contextes communs aux harceleurs et aux harcelés. Tu peux nous expliquer ?
Je ne sais pas s'il y a des traits communs, mais en tous les cas, ce qui est certain, c'est qu'il faut interroger l'environnement familial, les événements, l'histoire de l'enfant. Donc, il faut effectivement, pour avoir des réponses intéressantes et qu'au bout du compte, les choses s'améliorent vraiment, faire une enquête dans les deux sens, se poser des questions sur qu'est-ce que cet enfant harcelé a vécu, quel est son environnement familial, est-ce qu'il est trop isolé, est-ce qu'il est trop couvé, est-ce qu'il est trop livré à lui-même aussi ? Est-ce qu'il a eu des événements traumatisants dans sa petite enfance ? Et puis du côté du harceleur, même chose. C'est-à-dire, évidemment, ça s'inscrit dans une dynamique générale, familiale, personnelle. Et donc, c'est une recherche nécessaire pour que finalement, on avance vraiment.
Finalement, quand tu travailles avec des enfants harceleurs ou des enfants harcelés, tu impliques beaucoup les parents.
Oui.
Quel rôle les parents peuvent-ils jouer à ce moment-là ?
Alors, les enfants harceleurs, ceux que j'ai rencontrés souvent, ont du mal à prendre la mesure de ce qu'ils ont fait. Parce que leur grand truc, c'est pour rigoler. Et ils sont un peu dans le déni de la dimension vraiment très agressive de ce qu'ils ont fait. Souvent, d'ailleurs, ils l'ont fait seuls, mais assez aussi appuyés par un groupe. Hein, parce que souvent, c'est un groupe de deux, ouais. Trois qui s'en prennent à un. Et c'est dans cette dynamique de deux ou trois qu'ils sont encore plus agressifs. Mais c'est vrai que là, le rôle des parents, c'est de réfléchir à qu'est-ce qu'ils font passer aussi comme valeur. Est-ce qu'ils font passer la tolérance, le respect de la différence, comment ils en parlent ? Ça compte aussi, ça. Hein, quand un enfant rejette un autre parce que, par exemple, il le trouve trop efféminé, quel est le discours familial autour de l'homosexualité ? Qu'est-ce qu'il reçoit comme message ? Donc c'est vrai que c'est hyper intéressant de discuter avec les enfants et leurs parents parce que on arrive à faire des liens, quoi.
Oui, c'est un travail en commun,
ouais,
en fait.
Ouais. Et pour les enfants harcelés, c'est pareil. Parfois, on voit qu'il y a une espèce d'isolement comme ça, des enfants qui ne sont pas très habitués à voir d'autres groupes d'enfants. Parfois, c'est des familles qui ne sont pas très sociables non plus, des parents qui vivent dans des univers un petit peu clos, qui parfois eux-mêmes ont une anxiété sociale. Moi, j'ai repéré ça aussi. Donc, c'est toujours intéressant de les faire réfléchir. Pas du tout de chercher les coupables, ce n'est pas du tout ce qu'on recherche, mais de trouver du sens et de faire... et évoluer les choses.
Et après, alors, quand le problème a été, on va dire, pris en charge, qu'est-ce qui peut aider l'enfant ou l'adolescent qui a été harcelé à se reconstruire ?
Bah justement, l'écoute, le dialogue avec ses parents, le dialogue éventuellement avec un tiers extérieur, un psy ou autre. Et puis parfois, ça peut être éventuellement changer d'école. Hein.
Est-ce que c'est quelque chose qui est obligatoire, ça ?
Non, ce n'est pas obligatoire, mais parfois ça aide parce que l'adolescent a le sentiment qu'il va repartir à neuf ailleurs. Et c'est pour ça d'ailleurs que c'est intéressant de travailler en amont avec lui et avec sa famille, le pourquoi pourquoi du comment, pour pas qu'il y ait de situation de répétition. Mmh. Donc oui, pourquoi pas changer d'établissement scolaire, mais ça va pas tout résoudre si par ailleurs on n'a pas réfléchi à tout ça.
Mmh. Merci beaucoup Béatrice, on se retrouve très bientôt pour un prochain épisode d'En Famille, le podcast de toutes les familles.
Merci Marie.